Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, emplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse ces divines consolations, le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, bien, chers amis, nous en sommes toujours dans les explications données par les Pères de l'Église sur le chapitre 22 de l'Évangile selon Saint-Luc, sur le polycopier qui contient les chapitres 21 à 24 de Saint-Luc, à la page 15. Je pense terminer le chapitre 22, peut-être même commencer le chapitre 23 de Saint-Luc. Nous avançons lentement, mais sûrement. Donc, page 15 sur le polycopier, versets 54 à 62 du chapitre 22 de Saint-Luc. Se saisissant alors de Jésus, ils l'emmenèrent dans la maison du grand prêtre et Pierre suivait de loin. Or, ayant allumé du feu au milieu de la cour, ils s'assirent autour, et Pierre était au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa attentivement et dit, « Celui-ci était aussi avec lui. » Mais il renia Jésus en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Un peu après, un autre le voyant dit, « Vous aussi, vous étiez de ces gens-là. » Mais Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Et environ une heure plus tard, un autre affirmait la même chose, en disant, « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Et Pierre dit, « Homme, je ne sais pas ce que vous dites. » Et aussitôt, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retournant, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite, « Avant que le coq chante, vous me renierez trois fois. » Et Pierre alors, étant sorti dehors, pleura amèrement. Saint Pierre, dans son humilité, a voulu que sa trahison, triple trahison, soit publique, soit rendue publique par l'Évangile. Il aurait pu facilement demander à ce que, en tant que pape, à l'époque il était pape, bien que cette histoire soit cachée, comme on cache la poussière sous le tapis. Non, il a voulu qu'elle soit publiquement reconnue. Trois choses importantes dans ce texte. D'abord, la triple trahison de Saint-Pierre. Deuxièmement, ce regard que notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur se retournant, regarde à Pierre, le regard de Jésus à Saint-Pierre. Imaginez un petit peu à la fois la tristesse de notre Seigneur Jésus-Christ qui sait, parce qu'il est Dieu, il sait tout, que Saint-Pierre va le renier, et en même temps sa miséricorde. Un regard plein d'un amoureux reproche, en même temps plein de miséricorde. Et Pierre, troisième point, étant sorti dehors, pleura amèrement. Saint-Pierre va passer sa vie à pleurer. Donc il faut admirer, d'une part, l'humilité de Saint-Pierre, encore une fois, qui a voulu que sa trahison soit rendue publique, et en même temps, que cela nous maintienne dans l'humilité. Ainsi, Saint-Pierre a trahi trois fois. Qu'est-ce que je ne serais pas capable de faire moi-même? Voyons un petit peu le texte des Pères, donc page 15. Selon Saint Bède, le Vénérable, Pierre suivant de loin le Seigneur qui se dirige vers le lieu de ses souffrances et la figure de l'Église, qui suit, il est vrai, c'est-à-dire qu'il doit imiter la passion du Sauveur, mais d'une manière bien différente. Car l'Église souffre pour elle-même, tandis que Jésus-Christ souffre pour l'Église. Parce qu'évidemment, on peut dire aussi que la trahison de Saint Pierre représente la trahison de tous ceux qui vont suivre le mauvais exemple de Saint-Pierre, la trahison des clercs, la trahison des prêtres, la trahison des évêques. Combien de fois, nous aussi, nous trahissons comme Saint-Pierre a trahi? Combien de fois, moi-même, j'ai trahi comme Saint-Pierre a trahi? Donc si Saint-Pierre a trahi aussi facilement, aussi lourdement, eh bien, comment puis-je prétendre être certain de ne pas trahir moi-même? Vous voyez, cela manifeste la faiblesse de l'Église, la faiblesse de l'Église en tant qu'institution humaine. La force de l'Église en tant qu'institution divine, mais l'Église tout en étant divine est aussi humaine, donc attention. Rappelons-nous que si Saint-Pierre est tombé, bien je peux tomber moi-même. Notons aussi une autre chose très importante. Saint-Pierre est tombé, il n'était pas encore pape, attention. Il ne sera consacré pape par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qu'après la résurrection, après la pêche miraculeuse, quand notre Seigneur va prendre Saint-Pierre à part et trois fois va lui demander pour lui faire rattraper sa triple trahison. Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que vous m'aimez plus que cela? Plus que les autres? Eh bien, rappelons-nous ce point très très important, justement, que bien que Saint-Pierre ait trahi alors qu'il n'était pas encore pape, cependant, notre Seigneur Jésus-Christ a voulu que ce soit lui qui soit pape. Il aurait pu prendre un autre apôtre qui n'avait pas trahi de la même façon, non. Notre Seigneur Jésus-Christ a gardé sa promesse. Tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Autre commentaire des pères, Pierre s'approcha pour se réchauffer parce qu'à la vue du Seigneur chargé de chaînes, la chaleur de son âme s'était déjà refroidie. La providence divine permit donc qu'il tombât le premier dans le péché pour que le souvenir de sa propre chute modéra la sévérité de ses jugements à l'égard des pécheurs. Ceux qui sont tombés peuvent plus facilement parler de la miséricorde. Ok, de la même façon, au contraire, ceux qui ne sont jamais tombés pourraient être tentés de pécher contre la charité, parce que ou tomber dans l'orgueil. Celui qui au contraire est tombé se rappelle qu'il est tombé et sera plus miséricordieux à l'égard de ceux qui autour de lui tombent de la même façon. Donc cette chute de Saint-Pierre représente, d'après les pères, donc ce manque de charité qui provoque une froideur dans l'âme. L'âme se refroidit parce qu'elle n'est plus alimentée par la charité. La charité, c'est comme un feu dévorant. La flamme de la charité, c'est la flamme du Saint-Esprit. Cette flamme n'est pas dans le cœur, et bien à ce moment-là, le cœur va se refroidir. Ce reniement de Pierre nous apprend qu'on ne renie pas seulement Jésus-Christ en soutenant qu'il n'est pas le Christ, mais en niant qu'on soit chrétien lorsqu'on l'est en effet. Rappelez-vous ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, malheureusement, c'est cet abandon, ce reniement de Pierre qui est généralisé. On le voit cette fois-ci non pas par Saint-Pierre, mais on le voit partout, malheureusement, pratiquement tous les hommes d'Église qui trahissent notre Seigneur Jésus-Christ. Vous prenez par exemple ces messieurs de Rome qui prétendent que tous les catholiques et les musulmans ont le même Dieu. C'est des trahisons épouvantables. Le Bergoglio qui a le culot de dire que notre Sainte Vierge Marie n'est pas médiatrice de toutes les grâces, que l'enfer n'existe pas. Qui suis-je, disait-il, pour juger un homosexuel? Mais où on va comme ça? Ce sont le renouvellement des trahisons de Saint-Pierre. La différence, c'est que Saint-Pierre a demandé pardon. Saint-Pierre est sorti dehors et a pleuré amèrement, malheureusement. Dans l'église de Vatican II, on ne voit pas beaucoup de gens pleurer. Et ceux qui sont responsables de ces apostasies ne pleurent pas. Ils continuent dans leur trahison de notre Seigneur. Il faut se rappeler ce qu'a dit notre Sainte Vierge Marie à la Salette en 1846. Les prêtres, les ministres de mon divin fils sont devenus des cloaques d'impureté. Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui? Au sens figuré, voyons un petit peu ce verset 61, voyons un petit peu la représentation du coq. Il parlait encore, le coq chanta. Ce coq représente donc les docteurs qui excitent les âmes languissantes et engourdies en leur adressant ces paroles de l'apôtre juste, tenez-vous dans la vigilance et gardez-vous du péché. Pourquoi? Parce que le coq est supposé être celui qui réveille la ville le matin. Parce que le coq chante, c'est l'heure de se lever parce que le soleil vient de se lever. Et donc, ce coq représente ceux qui ont la charge d'exciter, de réveiller les âmes languissantes, les âmes engourdies par le péché, par la faiblesse de la chair, par les trois concupiscences, des yeux, de l'orgueil. concupiscence de la chair également. Donc le coq représente d'abord les religieux qui sont supposés chanter, malheur au coq qui refuse de chanter, on a fait du pot-au-feu. Malheur au prêtre qui refuse de chanter pour avertir les gens. Malheur aux gardes sur les murailles du château qui voient l'ennemi arriver, qui n'avertit pas tout le monde. Parce qu'il est à moitié en train de dormir et qu'il n'a pas compris ce qui se passe. Donc il faut se maintenir dans l'humilité. Sans la force du bon Dieu, il n'y a pas un seul péché qui a commis le voisin que je ne sois pas capable de commettre. Si Saint-Pierre est tombé, je suis plus malin que lui. Je suis encore capable de tomber plus vite que lui. En effet, pour Jésus, regarder, c'est faire miséricorde. Le Seigneur se retournant, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur avait dite. Mais il est un petit peu ce regard de Saint-Pierre qui s'est échangé entre Saint-Pierre et notre Seigneur. Notre Seigneur qui regarde Saint-Pierre, et Saint-Pierre l'a vu notre Seigneur Jésus-Christ qui sort de la maison de l'ancien grand prêtre, Anna, et qui il a dû entendre la porte qui s'ouvrait. Il regarde notre Seigneur et ce regard de notre Seigneur va le transpercer de regret, parce que c'est un regard plein de reproches, mais en même temps un regard plein de miséricorde. Notre Seigneur regarde Saint-Pierre pour lui dire deux choses. D'abord pour lui reprocher sa trahison, mais aussi pour l'encourager à regretter sa trahison, et certainement, même si ce n'est pas dit dans les évangiles, alors que notre Seigneur va, Jésus-Christ quitte la première maison pour aller dans la maison du grand prêtre, Caïphe, certainement qu'il devait déjà donner l'absolution à Saint-Pierre. Donc cette miséricorde nous est nécessaire pour faire pénitence. Sans miséricorde, pas de pénitence. Sans miséricorde, la miséricorde, sans utiliser la miséricorde du bon Dieu pour nous, on peut même pas dire, c'est Père, concevoir le principe même de la résolution. De la résolution. Je ne peux pas décider de commencer à changer de vie sans une grâce particulière prévenante du bon Dieu. Texte de saint Ambroise également, ceux sur lesquels Jésus daigne ainsi jeter un regard, pleurant amèrement leur faute. Ceux sur lesquels Jésus daigne ainsi jeter un regard pleurent amèrement leur faute. Et Pierre se ressouvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante, vous me renierez trois fois. Donc il faut vraiment méditer souvent ce point-là pour nous maintenir dans l'humilité, nous maintenir dans la confiance en la miséricorde du bon Dieu. Je vous ai déjà plusieurs fois expliqué, je ne reviens pas, que si Judas avait cru à la miséricorde infinie du bon Dieu à son égard, comme Saint-Pierre y a cru, eh bien Judas ne serait pas tué, il ne serait pas en enfer. Beaucoup de gens modernes dans l'Église du Vatican II, ces légions, prétendent qu'on n'a pas le droit de dire que Judas est en enfer. Pourtant, c'est l'enseignement de l'Église à cause de la phrase de notre Seigneur terrible sur Judas. Il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne fût point né. Quelle fut donc la cause de ces larmes? Se demande les pères, la faute qu'il avait commise, que Saint-Pierre avait commise. Je lis bien que Pierre a pleuré. Je ne vois point qu'il ait cherché à s'excuser. Ses larmes effacent le crime qu'il avait honte d'avouer. Donc malheur à celui qui pêche et qui ne regrette pas son péché. Quand les gens me disent au confessionnal, monsieur l'abbé, j'ai honte d'avouer un péché. Je dis toujours la même chose. Je dis, mais vous savez, si vous n'avez pas eu honte de commettre ce péché, n'ayez pas honte de l'accuser. Parce que les démons travaillent toujours de la même façon. Pour nous faire commettre un péché grave, il va nous ôter la honte. Une fois que la honte a été ôtée par le démon, à ce moment-là, il nous fait commettre le péché. Puis une fois que le péché a été commis, il va nous remettre la honte sur les épaules pour que nous n'ayons pas le courage de l'accuser au confessionnal. Si j'ai pas eu honte de péché, je n'ai pas à avoir honte de m'adresser au bon Dieu pour demander pardon pour ce péché. Le bon Dieu est plein de miséricorde et il pardonne à condition qu'on regrette, à condition qu'on accuse, à condition qu'on répare. Il n'y a pas les trois conditions pour une bonne confession. La contrition, le regret de ses péchés, avec le ferme propos de ne pas recommencer, d'éviter les occasions prochaines volontaires de péché, l'accusation des péchés et la réparation des péchés. Et un texte intéressant ici des Pères, en haut de la page 16. Saint Pierre avait renié son divin maître une première et une seconde fois, mais sans verser de larmes, parce que le Seigneur n'avait pas encore regardé. Il le renie une troisième fois, Jésus le regarde et il pleure amèrement. Donc, on voit très bien que le regret de Saint Pierre n'était pas encore là après la première trahison, la deuxième trahison. C'est uniquement après la troisième trahison, une fois que notre Seigneur Jésus-Christ eut regardé Saint Pierre, que Saint Pierre va regretter son péché et pleurer amèrement. Il n'a pas pleuré amèrement après la première faute ni la deuxième. Il a fallu le regard compatissant et miséricordieux de notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il puisse regretter son péché. Si donc, disent les Pères, vous voulez mériter votre pardon, vous aussi lavez vos fautes dans vos larmes. Il n'y a pas un seul péché qui ne soit pas pardonnable par notre Seigneur Jésus-Christ à condition qu'on le regrette. L'objection qu'on nous dit dans ces cas-là, c'est de dire même si vous lavez les péchés contre le Saint-Esprit ne peuvent pas être pardonnés. Donc ce que vous dites est faux. En fait, c'est que lorsque je suis dans un état spécial, qu'on est dans un état de péché contre le Saint-Esprit, tant que je reste dans ce péché, je ne peux pas être pardonné. C'est évident que tant que je reste dans l'occasion de péché, tant que je reste dans l'action du péché, je ne peux pas demander le pardon au bon Dieu et en même temps continuer de pécher. Première chose à faire pour se faire pardonner un péché grave, c'est d'arrêter le péché, évidemment. C'est de ne plus le commettre et regretter son péché. J'aime beaucoup cette phrase, donc il faut vraiment méditer là-dessus. Je conseille beaucoup à ceux qui écoutent ces conférences de méditer sur ce point. Il avait renié son divin maître une première et une seconde fois, mais sans verser de larmes, parce que le Seigneur ne l'avait pas encore regardé. Demandons au bon Dieu de nous regarder, de regarder souvent. Tous les matins, tous les soirs, il faut dire au bon Dieu dans la prière du matin, la prière du soir, au bon Dieu, regardez votre serviteur, regardez votre servante, parce que sans vous, sans votre grâce, il n'y a pas un seul péché qui est commis le voisin que je ne sois pas capable de faire. Rappelez-vous la prière de Saint Philippe Neri, oh mon Dieu, gardez Philippe entre vos mains, parce que sans votre grâce et votre miséricorde, d'ici ce soir, je suis suffisamment bête pour me faire juif ou musulman, moi m'étant. Donc nos larmes doivent être en proportion avec nos péchés. Et plus j'ai péché, plus je dois pleurer mes péchés. Attention, ce n'est pas forcément des larmes physiques, mais c'est des larmes spirituelles. Regretter son péché, et pour regretter son péché, il faut évidemment prendre la résolution de ne pas le recommencer. Donc on ne peut pas regretter son péché en même temps qu'on savait dans son âme une occasion volontaire prochaine de péché grave. On avance avec les versets 63 à 71 du chapitre 22 de Saint-Luc. Ceux que tenait Jésus se moquaient de lui. Il y a une faute là. Ceux qui tenaient Jésus, je m'excuse, j'ai pas vu cette faute. Ceux qui tenaient Jésus se moquaient de lui et en le frappant. Et ils lui voilèrent la face et ils le frappaient au visage et ils l'interrogeaient en disant, prophétisez. Qui est-ce qui vous a frappé? Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, les anciens du peuple, les princes et prêtres et les scribes s'assemblèrent et l'ayant fait venir dans leur conseil, ils dirent, si vous êtes le Christ, dites-le nous. Et il leur répondit, si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et vous ne me relâcherez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Alors tous dirent, vous êtes donc le Fils de Dieu? Il répondit, vous le dites, je le suis. Et ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignage? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. Les premiers blasphèmes, les premiers coups contre notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut y assister, hein. Il faut, dans sa méditation de la passion, il faut se mettre sur place. Imaginez, vous êtes une petite souris dans la salle du prétoire où notre Seigneur va commencer à recevoir ses moqueries, ses avanies, hein. Pourquoi? À cause de mes péchés. Pas forcément à cause des péchés du voisin, à cause de mes péchés personnels. Donc Saint Jean Chrysostome, en bas de la page 16, nous dit que Jésus, le Seigneur du ciel et de la terre, supporte et souffle les dérisions des impies pour nous donner un suprême exemple de patience. Si notre Seigneur Jésus-Christ, qui est innocent, a voulu subir des avanies pareilles, soyons pas étonnés, mais bien chers frères, si vous et moi, nous devons nous aussi subir ces mêmes avanies, au moins proportionnées à nos forces. Rassurons-nous, le bon Dieu ne nous demandera sans doute pas les mêmes souffrances qu'il a lui-même subies, pardon, c'est pas possible. Mais le bon Dieu nous, nous donnera les grâces dont nous avons besoin. Ce même Jésus, qui fut alors souffleté par les Juifs, est encore aujourd'hui outragé de la même manière par les blasphèmes des faux chrétiens. Ils lui bandèrent les yeux, non pour lui dérober le spectacle de leur violence, mais pour dérober à eux-mêmes la vue de sa face adorable. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ pourrait fermer les yeux pour ne pas voir toutes ces horreurs. Il les ouvre. Il les ouvre parce qu'il est venu pour rattraper justement ces horreurs. Comme l'homme ne veut pas faire pénitence, notre Seigneur Jésus-Christ fait pénitence pour nous. On peut vraiment dire aussi que le Saint Jean Chrysostome parle des blasphèmes des faux chrétiens ou des mauvais chrétiens. C'est certainement les péchés qui coûtent le plus à notre Seigneur Jésus-Christ, les blasphèmes, les gros mots, si vous voulez, contre Dieu. Blasphème, c'est ça. Les injures contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que ici, Saint Jean Chrysostome parle des blasphèmes des faux chrétiens, mais Dieu doit encore beaucoup plus souffrir des blasphèmes des chrétiens. Donc notre Seigneur doit beaucoup plus souffrir du blasphème de ses prêtres, du blasphème de ses chrétiens. Plus nous sommes hauts dans la hiérarchie devant notre Seigneur Jésus-Christ, plus nos péchés sont graves. Le péché personnel d'un pape est plus grave que le péché personnel d'un évêque. Le péché personnel d'un évêque est plus grave que le péché personnel d'un prêtre. Le péché personnel d'un prêtre est plus grave que le péché personnel d'un laïc. Parce qu'on a plus de responsabilités. Plus on augmente dans les responsabilités, plus on augmente dans les devoirs. Donc le même péché commis par quelqu'un qui a plus de responsabilités est beaucoup plus grave que le même péché commis par quelqu'un qui a moins de responsabilités. Le péché commis par le père de famille est plus grave que le péché commis par la mère de famille. Le péché commis par les parents est plus grave que le même péché commis par les enfants. On pense à ça, bien cher frère. Quand un père de famille, quand une mère de famille commet un péché, il faut se dire qu'ils vont pousser les enfants directement un jour à commettre les mêmes péchés. C'est ainsi que les hérétiques, les juifs et les mauvais catholiques qui continuent de l'outrager par leur conduite criminelle lui disent encore pour se moquer de lui, qui vous a frappé lorsqu'il s'imagine qu'il ne peut connaître leurs pensées, leur œuvre des ténèbres. Notre Seigneur Jésus-Christ voit tout. Hein. Il aurait pu envoyer encore un ange du ciel exterminer tous ceux qui le couvraient d'avanie et de blasphème. Il fait rien, il se tait. Hein, ce silence de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de très très fort. Hein. On va le voir plus tard, ce chapitre 23, verset 9. Jésus ne répondit rien, le silence de notre Seigneur. Donc notre Seigneur Jésus-Christ sait tout ce qu'on fait. Je vous l'ai déjà dit, j'avais remarqué dans les fausses religions, entre autres au Mexique, chez les Aztèques, les anciens Aztèques. On m'a dit que les Aztèques, qui adoraient le Dieu Soleil, faisaient très attention de ne pas offenser leur Dieu pendant la journée, parce que pendant la journée, le Soleil brille, et donc Dieu, leur Dieu est là et peut voir ce qu'ils font. Donc ils attendaient que le soleil soit couché, et puis une fois que le soleil est couché, logiquement, ils se disaient, bon, maintenant on peut faire toutes les bêtises qu'on veut, parce que notre Dieu ne voit pas. Mais notre Dieu à nous, il n'est pas comme ça. Notre Dieu à nous, il voit tout ce qui se fait, tout ce qui se prépare, il voit même le fond de nos pensées. Théophylacte, en bas de la page 16. Voici ces paroles, dont voici le sens. Le temps du discours et des enseignements est passé pour vous. Désormais, c'est le temps du jugement, où vous me verrez, moi, le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu. Cette conduite des Juifs nous montre que les esprits rebelles ne tirent aucun avantage des mystères qui leur sont révélés, mais qui n'en deviennent que plus coupables. Aussi vaut-il mieux les leur laisser ignorer. Mais nous, on n'est pas ignorants, on est au courant. Donc le même péché commis par un catholique est bien plus grave que le même péché commis par un non-catholique, parce que le péché commis par le catholique a plus de responsabilités et fait davantage souffrir notre Seigneur. De même que notre Seigneur dans Saint-Acquantin a plus souffert de la triple trahison de Saint-Pierre, qu'il a pu souffrir des blasphèmes qui étaient prononcés contre lui par les membres du Sanhédrin, parce que Saint-Pierre était un de ses amis. Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Il avait été choisi par notre Seigneur. Et nous, c'est pareil. Hein? Par le baptême, nous sommes des amis privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc notre Seigneur Jésus-Christ doit beaucoup plus souffrir des péchés commis par un de ses amis que des péchés commis par ses ennemis. Notre Seigneur doit beaucoup plus souffrir des péchés commis par un catholique que des péchés commis par un juif, même si c'est le même péché. Attention, pas oublier tout ça. Hein? Précisément parce que nous sommes des amis de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons plus de responsabilités et du coup, nos souffrances vont plus souffrir notre Seigneur Jésus-Christ que les souffrances qui viendraient contre lui de la part de gens qui ne sont pas catholiques. Autre texte de Saint Cyril, lorsque la Sainte Écriture nous représente Dieu comme assis, c'est le verset 69, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Donc, lorsque la Sainte Écriture nous représente Dieu comme assis, qu'elle nous parle de son trône, elle veut exprimer qu'il est le roi de l'univers et qu'il a sur tous les hommes une puissance souveraine. Notre Seigneur Jésus-Christ règne comme roi. Le roi, par définition, il a un trône. C'est de son trône qu'il règne. Rappelez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ règne par nature et par droit de conquête, hein, les deux. Par nature parce qu'il est, il est créateur et par droit de conquête parce qu'il est rédempteur. Hein. Donc, les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ sont terribles quand elles sont provoquées par des gens qui sont, qui ont été rachetés par le, qui auraient dû être rachetés par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. En quelque sorte, à chaque fois qu'on commet une faute grave, tous nos catholiques ont dit, oh mon Dieu, vous êtes mort pour moi sur la croix, vous avez répandu pour moi sur la croix votre sang, mais je m'en fiche, j'ai décidé de pécher quand même. Donc, n'oublions pas que Dieu est roi de l'univers et qu'il a sur tous les hommes une puissance souveraine. Encore une fois, il pourrait intervenir. Il aurait pu intervenir pendant l'agonie au jardin des Oliviers. Il pourrait intervenir là. Il le fait pas. Pourquoi? C'est le point de la méditation importante de cette méditation de la passion. Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ n'intervient pas? Pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas pour faire cesser cette mascarade? Eh bien, c'est la même question qu'on peut se poser. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ ne fait-il pas quelque chose pour stopper les blasphèmes de Bergoglio à Rome? Pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne nous envoie pas tout de suite une Sainte Jeanne d'Arc pour mettre les modernistes dehors, bouter les modernistes hors de la ville? Pourquoi il ne le fait pas? Ben, vous lui poserez la question, mes chers frères. Vous méditez là-dessus. Nous ne pouvons admettre, dit Saint Cyril, nous pouvons admettre en effet qu'il existe un tribunal, le Seigneur de toutes choses vienne siéger, ni que la nature divine, une droite ou une gauche, car il n'appartient qu'au corps d'avoir une forme, d'occuper une place ou d'être assis. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, qui est assis à la droite de Dieu le Père, représente le juge suprême. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, ici, rappelle qu'il est Dieu. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ce Fils de l'homme, c'est lui dont il parle. Il parle du Fils de l'homme, c'est une expression très étrange. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, le Fils de l'homme? Il est Fils de Dieu, il est fils aussi humain. Il est Fils de la très sainte Vierge Marie, il est Fils de Dieu. En tant que Fils de Dieu, il a la nature divine. En tant que Fils de la très sainte Vierge Marie, il a la nature humaine. Ces deux natures sont intégralement, non pas mélangées, mais placées dans la même personne, sans se mélanger. Comment le Fils de l'homme pourra-t-il paraître dans la même gloire, au même rang que son Père, s'il n'est pas son Fils par nature et s'il n'a pas en lui l'essence même du Père? Donc notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est pour ça que il va prononcer cette parole. Le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Et d'ailleurs, les gens qui sont en face de lui l'ont très bien compris. Vous êtes donc le Fils de Dieu? Vous le dites, je le suis. Ici, notre Seigneur assurer sa divinité, vous le dites, je suis. C'est-à-dire, je suis le Fils de Dieu, étant le Fils de Dieu, je suis Dieu par nature. Voilà ce qu'il veut dire. Alors, c'est ça qui a provoqué l'hurlement de sauvage des membres du Sanhédrin, qui dit, comment il se dit Dieu, alors que notre Seigneur Jésus-Christ avait annoncé sa venue par tous les miracles qu'il avait commis, qu'il avait opéré devant les Juifs, devant ces mêmes membres du Sanhédrin. Notre Seigneur Jésus-Christ avait aussi rempli toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Les Sanhédrins ne croient pas, ils ne veulent pas croire. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement Dieu, parfaitement homme, attention. Et donc, quand il prononce cette phrase, le Fils de l'homme sera assis à la droite et la puissance de Dieu, là c'est Dieu qui parle. Mais quand on le voit supporter sans rien dire les blasphèmes, les avanies de toutes sortes, là c'est l'homme qui parle. Voilà, nous avons terminé le chapitre 22 de Saint Luc. Nous allons passer au chapitre 23. Deuxième chapitre de la Passion. Et deux chapitres sur la Passion, 22 et 23. Puis il nous restera toutes les apparitions, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et les apparitions avec le chapitre 24. Il y a 32 pages, je crois, dans ce polycopier. Nous en sommes maintenant à la page 17 du polycopier. Voyons les versets 1 à 5. S'étant alors tous levés, ils le conduisirent à Pilate. Ils commencèrent à l'accuser en disant, « Nous avons trouvé cet homme pervertissant notre nation, péchant de payer le tribut à César, se disant le Christ roi. » Pilate l'interrogea en disant, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Et Jésus répondit, « Vous le dites. » Alors Pilate dit aux princes, des prêtres et aux foules, « Je ne trouve rien de criminel dans cet homme. » Et ils insistèrent en disant, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » Donc à la fin du chapitre 16, au verset 20, 70, chapitre 22, pardon, à la fin du chapitre 22, page 16, il est dit, il demande, les membres du Sanhédrin demandent à notre Seigneur, « Vous êtes le Fils de Dieu ?» Il répondit, « Vous le dites, je le suis. » Donc, affirmation directe de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, au chapitre 23, au verset 3, affirmation directe de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est roi parce qu'il est Dieu. Donc les deux choses sont liées. Il est Dieu parce qu'il est Dieu, il est roi. Il est roi parce qu'il est Dieu. Pilate interrogea en disant, « Êtes-vous le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Vous le dites. » Notre Seigneur Jésus-Christ affirme ici solennellement et sa divinité et sa royauté. Et sa divinité en disant, « Vous le dites, je suis le Fils de Dieu. » Et sa royauté en disant, « Vous le dites, je suis le roi des Juifs. » Notez aussi, c'est dans d'autres textes parallèles, dans les autres évangiles, qu'il ne dit pas simplement « Je suis le roi des Juifs », il dit « Je suis roi ». Parce qu'il est roi de tous les hommes, pas simplement des Juifs. Saint Ambroise nous précise que devant ces accusations, notre Seigneur se tait, parce qu'il n'a pas besoin de défense. Que cela cherche des défenseurs qui craignent à bon droit de perdre leur cause. Il ne confirme donc point ses accusations par son silence, mais il les dédaigne comme indigne d'être réfuté. Encore une fois, notre Seigneur Jésus-Christ va obliger tous ses ennemis à reconnaître et sa royauté et sa divinité. Il dit rien. Parce qu'il ne faut pas jeter les perles aux pourceaux, dit notre Seigneur en d'autres passages. Donc notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas faire un grand miracle s'il comprend que les gens en face de lui ne cherchent pas le vrai. Par contre, dès qu'il voit quelqu'un qui cherche le vrai, alors notre Seigneur Jésus-Christ va faire des miracles. Il se tait, donc il n'a pas besoin de défense, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Et notre Seigneur Jésus-Christ veut mourir pour nous, donc il ne se défend pas parce qu'il veut mourir. S'il se défendait, c'est un grand miracle, évidemment, il ne serait pas condamné à mort. Les Juifs auraient beaucoup trop peur de le condamner à mort. Donc il se tait pour que le mystère de sa passion puisse s'exercer. Que craindrait-il d'ailleurs, lui qui ne désire point échapper à la mort qu'on lui prépare, lui le sauveur de tous, abandonne le soin de son propre salut pour ne s'occuper que du salut de tous les hommes. Il oublie sa propre humanité pour penser à notre humanité. Il cache sa divinité pour que nous puissions, par la grâce du bon Dieu, avoir en quelque sorte sa divinité qui rentre dans notre âme. On voit très bien dans la passion de notre Seigneur Jésus-Christ comment notre Seigneur Jésus-Christ va cacher sa divinité de façon extraordinaire. Il cache sa divinité, mais attention, il est toujours Dieu. Hein. Il est toujours Dieu, il a toujours la vision béatifique, même en ces versets où on voit la passion de notre Seigneur se dérouler. Il est toujours Dieu, il voit toujours la divinité, il est Dieu, il a ce qu'on appelle la vision béatifique, un grand, grand mystère, c'est vraiment un des plus grands mystères. Comment est-il possible pour Dieu de souffrir en tant qu'homme, puisqu'il y a l'union entre la nature humaine et la nature divine dans la même personne, alors qu'il est Dieu? Donc on voit très bien qu'il y a une séparation entre ces deux natures, entre Seigneur Jésus-Christ, union de personnalité, mais pas union de nature. Il est vraiment Dieu et vraiment homme dans la même personne. Là, on voit l'abandon de notre Seigneur Jésus-Christ. Il sait tout, il est Dieu, il voit que pourtant sa passion va être inutile pour un immense groupe de gens. Mais ça fait rien, notre Seigneur Jésus-Christ va mourir pour tous ceux qui acceptent sa mort. Tu acceptes sa mort dans leur cœur parce qu'ils ont compris que cette mort de notre Seigneur Jésus-Christ représente notre mort au péché. Nous devons nous aussi mourir au péché. Nous avançons au verset 6 à 12 du chapitre 23 de Saint-Luc. Pilate, entendant parler de la Galilée, demanda si cet homme était galiléen. C'est référence au verset 5. Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. Donc Pilate essaie de se défausser sur Hérode. C'est verset 7. Ayant appris qu'il était la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode qui était aussi à Jérusalem en ces jours-là. Hérode, voyant Jésus, en eut une grande joie, car il désirait depuis longtemps le voir, parce qu'il avait entendu dire beaucoup de choses de lui et espérait lui faire faire quelques miracles. Il lui adressait donc de nombreuses questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Cependant, les princes, les prêtres et les scribes étaient là, l'accusant sans relâche. Or, Hérode avec ses gardes, le méprisa, et se moqua de lui en le revêtant d'une robe blanche. Puis il le renvoya à Pilate. Et Hérode et Pilate devinrent amis en ce jour-là, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Vous voyez, pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas fait de miracle devant Hérode? Il aurait pu convertir Hérode, ça aurait bien simplifié les choses. Hérode ne cherche pas le vrai. Il désirait voir notre Seigneur Jésus-Christ, il a eu même une grande joie de voir notre Seigneur Jésus-Christ, mais il ne désire pas voir notre Seigneur Jésus-Christ avec joie pour se convertir. Il désire voir notre Seigneur Jésus-Christ pour assister à un beau spectacle. C'est tout. Il voulait simplement espérer lui voir faire quelques miracles. Notre Seigneur Jésus-Christ, voyant que Hérode ne cherche pas le vrai, ne lui adresse même pas la parole, d'où le silence de notre Seigneur. Silence étonnant. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ se tait-il de cette façon? Pourquoi ce silence de notre Seigneur? Jésus saotem tachebat. Jésus se taisait. Bien, peut-être qu'on peut dire que le silence de notre Seigneur Jésus-Christ a pour fin de rattraper nos manques de silence. Combien de fois est-ce que j'ai parlé que j'aurais dû me taire? Combien de fois aussi ai-je dû, me suis-je tu alors que j'aurais dû parler? Il y a deux choses. Là, on voit la nécessité de la grâce du bon Dieu pour nous aider à parler quand il faut parler et se taire quand il faut se taire. L'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ est très fort pour nous. Dans certains cas, Dieu nous demande de nous taire. On le voit très bien dans l'apostolat en tant que prêtre pour nous. Il y a des fois, il faut parler. Puis parfois, on me taire. Ça ne sert à rien de parler. Même quand je vois la personne qui est en face de moi, qui n'a aucun désir de conversion, aucune bonne volonté, ce n'est pas le moment d'aller jeter les perles aux pourceaux, comme on dit. Donc je me tais. C'est ce qu'il faut toujours faire. Bon, il faut que je le fasse moi-même. C'est me poser la question avant de parler. Est-ce que de parler est nécessaire? Est-ce que je peux faire du bien à cette âme en parlant? Sinon, il me sert. Dans ce cas, on oblige les gens à réfléchir parfois. Rappelez-vous ce qu'a dit Saint Jacques sur la langue. Saint Jacques vilipende justement ceux qui parlent. Il précise que l'évangile, la langue est comme un feu qui peut tout dévorer. Je vous donne ce texte de Saint Jacques. C'est dans l'épître de Saint Jacques, chapitre 3. Si quelqu'un ne pêche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir aussi tout le corps en bride. Si nous mettons aux chevaux un mort dans la bouche pour nous en faire obéir, nous gouvernons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les vaisseaux. Les vaisseaux, c'est les navires. Tout grands qu'ils sont, et quoique poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un très petit gouvernail au gré du pilote qui les dirige. Ainsi, la langue est un tout petit membre, mais de quelles grandes choses elle peut se vanter. Vous voyez, une étincelle peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, un monde d'iniquité. N'étant qu'un de nos membres, la langue est capable d'infecter tout le corps. Elle enflamme le cours de notre vie, enflammée qu'elle est elle-même du feu de l'enfer. Toutes les espèces de quadrupèdes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent se dompter, ont été domptées par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau qu'on ne peut arrêter. Elle est remplie d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes qui nous ont été faits à l'image de Dieu. De la même bouche sort de la malédiction à la bénédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Est-ce que de la même ouverture, la source fait jaillir le doux et l'amer? Est-ce qu'un figuier, mes frères, peut produire des olives ou de la vigne des figues? Ainsi, une source salée ne peut donner de l'eau douce. Donc on voit justement cette importance de la langue. On peut tout faire avec la langue. Des bonnes choses, des mauvaises choses. On peut se damner, on peut se sauver. Je pense qu'il faut là vraiment méditer sur ce silence de notre Seigneur Jésus-Christ qui est un peu étonnant. Quand on explique ces passages aux enfants, ils sont choqués. Ils nous disent, Monsieur l'abbé, pourquoi le Seigneur ne fait rien? Pourquoi il ne fait pas un miracle? Moi, si j'avais été à sa place, j'aurais fait un grand miracle pour convertir tout le monde, régler tous les problèmes. Ben oui. Mais vous n'êtes pas notre Seigneur Jésus-Christ, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Hein? Il se tait. Dans bien des cas, surtout aujourd'hui de plus en plus, il va falloir nous taire. Mon Dieu nous l'a promis d'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Quand vous serez amenés devant les juges, devant les tribunaux, ça risque de vite arriver pour nous les catholiques, et même, vous ne préoccupez pas de savoir ce que vous devrez dire. Le Saint-Esprit vous dira. Et le Saint-Esprit nous dira, sans doute dans bien des cas, de nous taire. Hein? Jésus se tait. Jésus répondit rien. Verset 9. Passons à la page 18. Continue les explications des pères. Saint Ambroise. Jésus se tait. Il ne fait aucun miracle parce qu'Hérode n'avait pas la foi qui mérite d'avoir des miracles. Et que lui-même fuyait toute ostentation. Peut-être aussi Hérode est-il la figure de tous les impies, qui ne peuvent voir et comprendre les miracles de Jésus-Christ racontés dans l'Évangile qu'à la condition de croire à la loi et aux prophètes. Il faut que le cœur soit ouvert. Notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas des miracles sans raison, on le voit très bien. Il ne faut pas croire que notre Seigneur va faire des miracles comme ça sans raison. Oui. Dans certains apocryphes, on voit des miracles qu'aurait fait notre Seigneur Jésus-Christ quand il était tout petit. Un miracle, entre autres, où il aurait, d'après ces apocryphes, qui ne sont pas reconnus par l'Église, attention, qui peuvent avoir un intérêt historique, mais qui ne sont pas reconnus par l'Église. Notre Seigneur, enfant, jouait avec de la glaise, et puis il a fait façonner avec de la glaise, de l'argile, une petite mouette, un petit oiseau, et puis il a soufflé sur la mouette en argile, elle est devenue vivante, elle s'est envolée. Vous voyez. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne fait pas des miracles comme ça sans raison. D'abord, l'Évangile nous dit que le premier miracle fut le changement d'eau en vin au mariage de Cana en Galilée, donc il n'y a pas eu de miracle auparavant. Toutes les apparitions donc, qui prétendent que notre Seigneur Jésus-Christ a fait des miracles avant Cana de Galilée sont donc des fausses apparitions, puisqu'elles s'opposent à la tradition de l'Église, à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne demandons pas toujours des miracles. Le bon Dieu fait des miracles. C'est une objection qu'on a très souvent, même sur l'abbé, au début de l'histoire de l'Église, on voit ces apôtres qui faisaient des miracles à l'appel. Pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ n'en fait-il pas? Enfin, si on fait un petit miracle, quand même, ça arrangerait les choses. Pourquoi le bon Dieu ne nous donne-t-il pas un nouveau Saint-Pilice? S'il nous envoyait un nouveau Saint-Pilice, ça arrangerait aussi les choses, quand même. Monsieur l'abbé, vous-même, vous ne pouvez pas faire un petit miracle, là, comme ça, au lieu d'avoir 10 personnes à la maison, votre petit oratoire de misère, eh bien, vous auriez une grande cathédrale. Jésus se taisait. Jésus se taisait. Voilà la réponse. Notre Seigneur Jésus-Christ donne à chacun les grâces, mais il attend que les cœurs s'ouvrent. Si le cœur ne veut pas s'ouvrir, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, notre Seigneur Jésus-Christ ne détruit pas le libre arbitre de chacun d'entre nous. Autre commentaire des pères, deuxième paragraphe de la page 18. Cette conduite de Jésus nous apprend à garder nous-mêmes un silence absolu. Toutes les fois que nos auditeurs témoignent le désir de nous entendre pour faire l'éloge de nos discours, plutôt que pour corriger leurs vices, de peur qu'en annonçant la parole de Dieu par un motif de vaine gloire, nos discours n'aient d'autre résultat que de nous rendre coupables sans avoir rendu les autres meilleurs. Hein? Malheur, le Saint Jean Chrysostome qui a un sermon là-dessus aux prêtres qui attendent après leur sermon des grands compliments, vous voyez, des grands compliments. Et comme ça, les grands prédicateurs qui sont tombés dans une désolation terrible parce qu'ils n'avaient pas été applaudis à la fin de leur conférence, à la fin de leur sermon. Fut un temps où c'était, malheureusement, c'est pas bon d'ailleurs, la coutume parfois d'applaudir. Oui, non, attention. Le prêtre prêche pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et je mets en garde un petit peu les gens, même si vous pensez que votre prêtre a fait un bon sermon, n'allez pas le lui dire, parce que c'est pas un service que vous lui rendez. Moi, j'avoue, j'apprécie ici, dans ma petite paroisse, je ne sais pas si mes fidèles apprécient mes sermons, ne me disent jamais. Mais c'est bon pour l'humilité, pour moi, et c'est nécessaire. Il y a un certain côté, même si c'est un petit peu difficile, parce que je ne sais jamais ce qu'ils pensent de mes sermons, je remercie le bon Dieu que mes fidèles ne me félicitent pratiquement jamais pour mes sermons, parce que ça me maintient dans l'humilité, ça m'oblige à me maintenir dans l'humilité, à bien comprendre que je prêche pour notre Seigneur Jésus-Christ, et pas pour obtenir des applaudissements humains. Les applaudissements, on les aura au ciel. Vous voyez? Donc, il faut faire attention, garder ce silence aussi. Malheur à ceux donc qui, en annonçant la parole de Dieu par un motif de vaine gloire, ont pour résultat que de nous rendre plus coupables sans avoir rendu les autres meilleurs, nous disent les pères. Nous pouvons reconnaître à plusieurs signes les intentions douteuses de ceux qui nous écoutent, mais surtout lorsque nous les voyons louer sans cesse ce qu'ils entendent sans jamais mettre en pratique les enseignements dont ils font éloge. Oui. Souvent on voit ça, hein, les gens, ah monsieur l'abbé, vous avez donné un sermon magnifique, j'ai connu un prêtre comme ça, c'était terrible, une conférence qu'il donnait, il savait qu'il avait préparé une bonne conférence, alors il préparait des tas de cassettes avant même de donner la conférence. Et puis, il donnait sa conférence, tout le monde l'applaudissait à tout rompre, et puis après il disait, ah voilà, vous avez les cassettes, je vois que vous avez apprécié mon sermon, j'ai beaucoup travaillé sur ce sermon, voilà la cassette, vous pouvez avoir l'enregistrement de ce sermon. À ce moment-là, on travaille pour nous, pour notre gloire personnelle, et puis pour la gloire de Dieu. C'est David qui dit, non nobis da gloriam, c'est nomine tuo, domine da gloriam. Ce n'est pas à nous qu'il faut donner la gloire, Seigneur, mais à vous-même, à votre propre nom. Un malheur au prêtre qui recherche, qui attend les félicitations de ses fidèles. Et j'avoue que c'est vite fait, hein. C'est vite fait. D'attendre des félicitations des fidèles. Et non, on ne travaille pas pour les gloires humaines, on travaille pour les gloires du bon Dieu, la gloire du bon Dieu. Hein. Donc faites attention, n'allez pas encenser constamment vos prêtres, n'allez pas les féliciter pour les sermons. Bon, bah, c'est sûr que parfois, vous voyez que le prêtre est un peu découragé parce que personne n'a sa messe. Bon, vous pouvez l'encourager un peu, c'est une chose, mais attention à aider le prêtre à se maintenir dans l'humilité. Puis quel était ce prêtre? Où est-ce que j'ai lu ça? Un fidèle qui venait féliciter le prêtre pour son sermon. Et le prêtre l'interrompt en disant, oui, il y a le démon qui vient de me dire ça, justement. Le démon vient de me féliciter pour mon sermon. Malheur au prêtre si le cerveau de le démon vient de féliciter pour son sermon. Saint Jean Chrysostome qui dit malheur au prêtre qui a prêché et dont la prédication n'est pas couverte par les pleurs et les gémissements de componction des fidèles. Vous voyez? Donc un sermon est bon dans la mesure où ce sermon aide les fidèles à changer de vie, à se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ. Un sermon ne vaut rien s'il n'aide pas les gens à sentir meilleurs. Est-ce qu'après avoir entendu un sermon de l'abbé Lafitte, vous vous sentez plus porté à aimer le bon Dieu, plus porté à haïr vos fautes, mes fautes, hein? Donc c'est ça qui est la question qu'il faut se poser, hein? Ce n'est pas sans un dessein mystérieux que Jésus est revêtu par Hérode d'une robe blanche. Donc ça c'est dans le texte chapitre 23 de Saint-Luc verset 11. Hérode avec ses gardes le méprisa notre Seigneur, se moqua de lui en le revêtant d'une robe blanche. Puis il le renvoya à Pilate. Alors, est-ce que c'est... Donc cette robe blanche, disent les pères, et le symbole de sa mort innocente. Et le signe glorieux de l'agneau sans tache qui devait expier les péchés du monde. C'est le symbole de la joie et symbole de la pureté, le blanc. Et parce que le blanc aussi repousse la lumière. Le noir attire la lumière, le blanc la repousse. Donc, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui repousse ses grâces vers les autres. C'est l'image aussi du prêtre qui normalement devrait justement attirer sur lui par sa sainte messe les grâces du bon Dieu et ensuite les diffuser aux autres comme le tissu blanc renvoie la lumière. Donc c'est le symbole de la mort innocente de notre Seigneur Jésus-Christ, signe glorieux de l'agneau sans tache, donc la pureté qui devrait expier les péchés du monde. Les péchés du monde sont noirs, sales. Et la blancheur de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, qui symbolise son innocence, il est l'agneau sans tache, justement, va effacer la noirceur du péché. Voyons comment, disent les pères, comme le démon sait réunir ceux qui sont le plus divisés pour arriver à consommer la mort de Jésus-Christ. Réjouissons-nous donc nous-mêmes si dans l'intérêt de notre propre salut, nous ne savons pas conserver l'union avec nos amis. Et ici, ces deux bandits, Pilate d'une part, Hérode d'autre part, d'ennemis qu'ils étaient devinrent amis. Donc on se forge une amitié sur le dos de l'innocent. Il y a tout un symbole derrière, évidemment, dont ici parlent les pères, c'est que si une amitié est pour moi une source de malheur, une source dangereuse, une source de péché, si une amitié n'est pas pour moi un symbole de progression vers le salut, eh bien il faut couper avec cette amitié. Rappelez-vous ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ, si ta main droite, ton pied droit, ton œil droit sont pour toi des occasions de péché, coupe, arrache, jette loin, parce que notre Seigneur Jésus-Christ seul est capable de remplir mon âme. Oui. Donc, réfléchissons à ça. Il y a des amitiés qui sont pas bonnes, des amitiés qui sont dangereuses, y compris pour les prêtres d'ailleurs. Voyez. Ceci, un petit détail à ce propos, n'oubliez pas que le prêtre, bon, même si vous entendez bien que le prêtre, il faut garder une certaine distance, vous voyez, distance pour le prêtre. C'est ça que je peux pas supporter dans l'église moderne. Les fidèles tutoient leur prêtre et l'appellent par le prénom, c'est pas bon du tout. Oui, pas bon du tout. Parfois, ça arrive, les fidèles qui connaissent pas, qui commencent à tutoyer le prêtre. Non, je les arrête tout de suite. Excusez-moi, monsieur, mais dans l'église catholique, c'est la coutume. On vous voit le prêtre. Ah oui, mais le vouvoiement, ça garde les distances. Ça fait garder les distances. C'est un principe, monsieur. Le vouvoiement, c'est aussi un symbole d'autorité. Un symbole d'autorité. Ne cédez pas à cette manie du tutoiement qui se généralise de plus en plus dans le monde moderne imprégné d'idées révolutionnaires. Parce que ce tutoiement fait penser à l'égalité entre les gens. Or, tous les gens sont différents. Chaque âme est différente des autres âmes. Hein, donc, les parents et les enfants ne sont pas égaux. Les parents ont une autorité qu'ont pas les enfants. Vous voyez? Donc, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié dans ma famille, j'insistais beaucoup là-dessus. J'ai été élevé dans ce respect du vouvoiement. On était quatre garçons chez moi, les quatre garçons ont toujours vouvoyé nos parents. Et même papa vouvoyait maman. C'est bizarre, maman tutoyait papa, mais papa vouvoyait maman. Et ça m'a toujours beaucoup impressionné. Je suis resté très, très attaché au vouvoiement, qui est un symbole de respect. On vous voit une âme parce qu'elle est marquée par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, par le baptême. Je vous vois tout le monde, y compris les bébés. Je vous vois même mon frère prêtre. J'ai un frère qui est prêtre, qui a été ordonné par Monseigneur Lefebvre 2 ans après moi. Mon frère Laurent, et je le vous vois. J'ai tenu à le vous voyez justement. Dans la vie de Saint-Pédis, on voit aussi ça. C'est un moment de Saint-Pédis, au moment où Saint-Pédis est rentré au séminaire et qu'il est revenu avec la soutane à la maison, il a exigé que ses frères et sœurs commencent à vous voir leurs frères. Il a imposé le vouvoiement. Parce que Joseph Sarteau était devenu séminariste. Vous voyez? Alors, on continue. Autre sens, c'est-à-dire le sens figuré, savoir pourquoi Hérode et Pilate, qui étaient ennemis, d'ennemis qu'ils étaient, devinrent amis. Voilà ce que disent les pères, ça c'est intéressant, sens figuré. Hérode et Pilate, qui se réconcilièrent à l'occasion de Jésus-Christ, représente jusqu'à un certain point le peuple juif et le peuple des gentils, qui devaient aussi se réconcilier entre eux par la passion du Seigneur, en suivant néanmoins cet ordre que les gentils recevraient les premiers la parole de Dieu et feraient ensuite entrer en participation de leur foi et de leur charité les juifs qui revêtiraient aussi de gloire et de majesté le corps de Jésus-Christ, objet autrefois de leur mépris. Ici, ce corps de Jésus-Christ, c'est plutôt l'Église. L'Église est le corps mystique du Christ. Vous voyez ? Donc la véritable charité, elle se fait avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si votre amitié ne vous aide pas à augmenter l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ pour vous, pour les gens autour de vous, c'est une amitié qui n'est pas bonne. Et combien de prêtres ont tout perdu parce qu'ils ont gardé une amitié dangereuse. Et même des amitiés qui sont trop sentimentales. Vous savez, une amitié peut commencer par devenir sentimentale et très vite peut la ligne entre une amitié sentimentale et une amitié sensuelle est très fine. La ligne entre une amitié sensuelle et une amitié pécamineuse, sexuelle, est très fine aussi. Donc attention à ça, je pense que c'est important donc, de savoir garder justement une certaine distance avec le prêtre. Ça n'empêche pas de bien s'entendre avec lui, ça n'empêche pas d'avoir une certaine admiration pour le prêtre. Mais il faut garder cette distance, garder ce vouvoiement. Je ne peux que pousser ceux qui m'écoutent, qui écoutent ces conférences, de favoriser au maximum ce vouvoiement. N'acceptez pas cette modernité qui consiste pour les enfants à tutoyer tout le monde. On donne des grands claques dans le dos, tout le monde est égal. Non, nous sommes tous différents. Je souhaiterais beaucoup que les parents reprennent ces vieilles coutumes qui consistent pour les enfants à vouvoyer leurs parents. C'est une très bonne chose. Je sais bien que c'est plus trop dans la coutume. Les gens ont perdu ces habitudes, mais c'était une belle chose. Monseigneur Lefebvre, au séminaire, avait imposé le vouvoiement entre séminaristes. Il avait raison. Il avait donné une dérogation simplement pour les frères de sang. Quand deux frères étaient au séminaire, évidemment, ils pouvaient se tutoyer. Mais les séminaristes devaient se vouvoyer entre eux. Et j'aimais beaucoup cette coutume. Et moi, ça ne m'a jamais coûté parce que j'ai toujours été très attaché au vouvoiement à cause de l'éducation que j'ai reçue. Mais malheureusement, les séminaristes qui se tutoyaient entre eux, et c'était une désobéissance à l'égard de Mgr Lefebvre, ça introduisait une espèce de vulgarité. Mgr Lefebvre ne pouvait pas supporter la vulgarité. Il avait raison. Une phrase de Saint Bède le Vénérable. La réconciliation d'Hérode et de Pilate signifie que les gentils et les juifs, si différents d'origine, de religion et de sentiment, se réuniront, se ligueront pour persécuter les chrétiens. Qui se ressemblent, s'assemblent. Qui se ressemblent, s'assemblent. Donc ceux qui se ressemblent se retrouvent ensemble. Vous voyez? C'est quelque chose qu'on remarque dans le monde d'aujourd'hui, comment les gens qui sont unis par une même haine de notre Seigneur Jésus-Christ, ipso facto, tout de suite se retrouvent amis. Et au contraire, ceux qui sont unis par un même amour de notre Seigneur Jésus-Christ, très vite vont se retrouver amis. Vous voyez? Et c'est beau d'ailleurs, moi j'ai vu ça plusieurs fois, mon apostolat de prêtre, des gens qui ne se connaissent pas, et qui se retrouvent par exemple une fois à la messe, je présente telle famille que je connais, qui viennent ici, ils ne sont pas d'ici, mais ils viennent ici à la messe aujourd'hui, c'est les vacances, ils sont en vacances dans le coin, ils viennent à la messe, je vous les présente, monsieur, madame, un tel, et les enfants, et tout de suite, il y a une espèce d'union qui se crée, ah, les amis de mes amis sont mes amis, monsieur l'abbé, si ce sont des fidèles à vous, c'est des gens qui habitent dans d'autres coins de France, je ne les connais pas, mais ils viennent à la messe, on a les mêmes principes, on a la même amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, donc ce sont nos amis. Et tout de suite, ils vont s'inviter entre eux. Monsieur, madame, venez donc manger chez nous, venez donc prendre le café chez nous après la messe, on fera un petit peu connaissance. Mais oui, venez, parce que vous êtes des amis de notre Seigneur Jésus-Christ, donc vous êtes des amis à nous. Oui. Il y a dans les règles de Saint-Ignace une règle très importante, justement, qui explique un petit peu ça. Saint Ignace de Loyola, on parle dans sa 12e règle, il parle, voilà ce qu'il dit, c'est le propre de l'ennemi, donc du démon, de faiblir, de perdre courage, quand la personne qui s'exerce dans les choses spirituelles tient tête fermement aux tentations d'ennemi en faisant ce qui est diamétralement opposé à la tentation. Au contraire, si la personne qui s'exerce commence à craindre et à perdre courage sous le coup des tentations, il n'y a pas de bête aussi féroce sur la face de la terre que l'ennemi de la nature humaine qui poursuive son intention maudite avec autant d'excessive malice. Ça veut dire quoi? Moi, j'explique souvent comme ça. J'utilise beaucoup en matière de politique, vous voyez. Les amis de mes amis sont mes amis. Hein? Et ça veut dire quoi? On peut l'expliquer comme ça. Je donne souvent un exemple pour expliquer cette règle. Une explication indirecte, mais qui aide les gens à comprendre. Souvent, les gens me demandaient, monsieur l'abbé, qu'est-ce que vous pensez de telle personne politique? Telle personne qui monte une nouvelle organisation, un nouveau parti, etc. Qu'est-ce qu'il faut penser de ce parti? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette personne politique? Souvent, je ne connais même pas la personne, ni de près, ni de loin. Et je dis toujours, mais qu'est-ce que les ennemis de l'Église disent de cette personne? Qu'est-ce que les grands médias officiels disent de cette personne? Ah, monsieur l'abbé, tous les grands médias officiels, Le Monde, Le Figaro et compagnie, et tous les grands GAFA, Google et compagnie, ils encensent constamment cette personne. Faut prendre le contraire. Faire diamétralement le contraire de ce qui est proposé. Donc, si les ennemis de l'Église pensent que cette personne est un grand bonhomme, ce doit être un bandit. Si au contraire, les ennemis de l'Église, les grands journaux, les GAFA, etc., considère que cette personne est un bandit, vraisemblablement c'est un type de voleur. Bon, il faut un peu de prudence évidemment dans l'application de cette règle, mais je pense que c'est quand même important. Voilà, je vais donc arrêter là parce que j'arrive déjà à une heure, j'essaie de ne pas vous garder trop longtemps. Donc je répète cette phrase de Saint Bède pour terminer mes explications là. La réconciliation d'Hérode et de Pilate signifie que les gentils et les justes, différents d'origine, de religion et de sentiments, se réuniront, se ligueront pour persécuter les chrétiens. Voilà, nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.